Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire vraiment intéressant. Moi ici, avec ma collègue Julie Matane, je vais peut-être prendre une vision plus, encore un peu plus extérieure et on va réfléchir à la question de la mise sous cloche de la forêt. Parce qu'en fait, OK, on va planter, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces arbres après? Est-ce qu'on coupera ces arbres? Et en fait, la question n'est pas souvent posée. J'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes qui sont, par exemple, en charge du projet de planter 40 millions d'arbres pour le Liban. Donc, ils travaillent avec les enfants, dans les écoles, tout le monde plante, etc. Mais en fait, pour faire quoi de ces arbres après, ce n'est ni dit, ni en fait réfléchi. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de le faire via l'analyse du ressenti de la société. On aurait pu le faire aussi via l'évolution des nombreuses politiques qui vont peut-être un petit peu indirectement dans le sens d'une mise sous cloche de la forêt, mais on va le faire via le prisme du ressenti de la société. Et donc, en fait, le postulat qu'on a, c'est on l'observe depuis pas mal de temps, une résistance, voire une opposition à la coupe d'arbres par le grand public avec cette tendance en fait, à la recherche d'une forêt intacte, voire mise sous cloche. Je vous ai mis ici quelques exemples en dessous. Ici, la grève mondiale pour le climat avec des jeunes en Afrique qui demandent qu'on arrête de couper des arbres. En bas à gauche, c'est aux États-Unis où on a modifié ce qu'il y avait sur un arbre pour dire on ne coupe pas d'arbres du tout. Vous avez les réactions aussi que vous avez eues chez vous en France avec l'incendie d'une entreprise, bien que là, c'est peut-être aussi plus sur le type de forêt que sur la coupe elle-même. Et puis une vidéo vraiment intéressante de jeunes qui vivent en forêt, qui sont partis avec leurs enfants vivre en forêt et qui veulent vivre contre les lois contre les réglementations qui sont en vigueur. Et ils le revendiquent. Alors nous, on travaille via le concept de représentation sociale. Je ne sais pas si c'est très utile d'aller loin dans le détail de ce qu'est une représentation sociale. Bien que c'est intéressant quand même de dire que c'est un ensemble organisé d'informations, d'opinions, d'attitudes et des croyances sur un objet particulier, en l'occurrence la forêt. Et en fait, à quoi est-ce que les forêts, les représentations sociales, elles sont essentiellement transmises par la communication et elles vont guider le comportement du groupe en fait auquel elles se réfèrent. Alors en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, je suis forestière au départ, donc très souvent j'ai entendu ce que les acteurs proche du secteur disait, mais on n'a pas assez souvent, je pense, écouté ce que vraiment la société, ce que la société, comment elle voit les choses. Et donc, on a eu plusieurs projets sur lesquels on a travaillé en partie avec les collègues français. Et donc, ce qu'on a analysé, c'est l'évolution des représentations sociales de la forêt. Et on a constaté une espèce de fond commun à un peu toutes les époques, une espèce de mythologie inconsciente, où la forêt, ça va être un espace chargé de puissance divine, un lieu de mystère et de révélation. On se perd en forêt, on y trouve sa voie, on s'y retrouve aussi parfois. Pour y accéder, il faut être fort, chasseur, prêtre, roi ou brigand. C'est souvent un espace inhospitalier et menaçant que l'on fait, qu'on traverse, voire un espace initiatique. Ça, c'est une espèce de fond commun. Mais pendant très longtemps, d'où on vient, nous, en fait, et pourquoi c'est important de voir aussi d'où on vient, c'est que pendant très longtemps, la forêt et la foresterie, elle s'est inscrite dans une société rurale assez fermée sur elle-même, assez homogène socialement et culturellement, avec la forêt, qui était un décor lointain, un peu mis à part, avec un forestier qui en fait agissait comme une forme de propriétaire symbolique de la forêt qui en gérait le destin. Ça a duré très longtemps. Ça explique pourquoi on a eu une administration des eaux et forêts, pourquoi on a eu des écoles spécifiques. Et ça a vraiment forgé aussi pas mal de représentations. Un auteur disait que la forêt est une île dans le paysage rural. Et je pense que ça résume bien les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Il y a trois grands moteurs globaux de changement, si on voit les choses uniquement d'un point de vue social, pas environnemental, c'est qu'on est dans un monde urbain. Sur la planète, la majorité de la population vit en ville. Ça veut dire qu'il y a une façon de vivre et de penser qui évolue. On n'est plus dans un monde basé sur l'économie primaire ou secondaire, mais sur le monde tertiaire, c'est-à-dire c'est le monde des services qui domine l'économie, voire l'emploi. La plupart des gens travaillent dans le tertiaire, dans les services, donc ils sont loin de la nature, ils sont déconnectés aussi, ils habitent souvent en ville d'ailleurs, et on est dans un monde global qui aplatit aussi d'une certaine façon les visions. Et donc, ce qu'on observe, c'est vraiment une vision de la forêt qui est virtuelle, immatérielle et souvent distante. C'est à grosse louche, hein, y a pas, c'est une vision dominante. Il y a évidemment en dessous de ça toute une série de nuances, mais là, on passe vraiment largement au-dessus. Et donc, aujourd'hui, les représentations sociales, pardon, pour le grand public, la forêt, c'est la rareté d'un bien précieux, potentiellement menacé par les activités humaines, un territoire tabou, préservé des agressions de la vie moderne. Il y a beaucoup qui ignorent à qui appartient la forêt. C'était d'ailleurs le cas de Gilles Imaten qui travaille avec moi maintenant, qui n'y connaissait rien au départ à la forêt et qui ne savait absolument pas que ça pouvait appartenir à des gens. La fonction principale de la forêt, elle est essentiellement écologique. Et ici, je voudrais illustrer ce propos par les résultats de l'Eurobaromètre de l'Union européenne, qui a interrogé les citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc ici, c'est plus de 28 000 personnes qui avaient une liste de questions, enfin de réponses fermées. Quels étaient pour eux les plus importants bénéfices de la forêt? Ils pouvaient en citer trois, et c'est clairement les questions de carbone et les questions de climat qui viennent largement devant les autres. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est le cas. Ici, c'est la réponse à la même question, mais quel est le top 1? Quel était le premier? On voit que c'est l'absorption du carbone pour la France. C'était proche de la COP de Paris, mais ce n'est pas grave. C'est quand même ces deux éléments-là qui sont les plus importants avec la biodiversité. Mais le bois, par exemple, n'est le top 1 pour aucun pays. Et de façon plus intéressante aussi, le bois, en tant que bénéfice de la forêt, n'est pas dans le top 3, ni dans Finlande, ni en Suède. Pourtant, Dieu sait si ce sont des pays qui sont forestiers d'un point de vue de la superficie, c'est ce que ce schéma montre, mais aussi d'un point de vue économique, c'est des pays dans lesquels le secteur a une grande valeur, une grande importance d'un point de vue économique. Ça va des contributions au produit intérieur brut de l'ordre de 3, 4, 5 %. Et même dans ces pays-là, le bois n'est pas considéré comme étant un des principaux bénéfices de la forêt. Alors, la forêt est aussi devenue un sujet sensible. Il y a de nombreuses significations sentimentales et d'une relation émotionnelle. Et on observe qu'une grande partie est contre l'abattage d'arbres, la destruction d'arbres, qui est un acte qui est considéré comme tuer la forêt. Et voici les résultats d'une étude qui a été menée chez nous en Belgique par Daniel Bosson, qui est sociologue. Donc, il a interrogé une population considérée comme représentative des francophones de Wallonie et de Bruxelles. Et parmi le questionnaire, il y avait une question: qu'est-ce qu'il faudrait interdire comme activité en forêt? Et pour 40 % des personnes interrogées en 2005, mais 48 en 2018, c'était l'abattage d'arbres. Il faudrait interdire purement et simplement d'abattre des arbres. Et cette proportion monte à 2/3 chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, en général aussi, ce qu'on observe, c'est une vision relativement pessimiste sur l'état des forêts et sur leur futur. La préservation et l'exploitation sont vraiment considérées comme difficilement compatibles. On observe, et nous vraiment, on l'observe de plus en plus, les agents de terrain l'observent aussi, un fossé grandissant entre le secteur et la société qui a vraiment du mal, y compris à comprendre ce métier. Vous avez tous entendu parler de ce fameux bouquin La vie secrète des arbres. Nous, on l'a reçu à l'époque sous le sapin plusieurs fois en disant: oh, quel magnifique livre sur la forêt. En fait, il y a un très intéressant article du Courrier international en 2016 qui reprenait un article du Bild, du Zeit, pardon, en Allemagne, et qui dit: les Allemands ont toujours manifesté un attachement viscéral à leur forêt. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est au milieu des hêtres, des chênes et des épicéas qu'ils vont se ressourcer. Pourtant, leur consommation de bois de chauffage et de construction grimpe en flèche, dilemme. Et puis, ils nous disent, en fait, aujourd'hui, il y a deux types de forestiers: celui qui est illustré à gauche et qui est le forestier auteur de ce bouquin, et celui qui est à droite, qui est celui... Peut-être que dans le monde forestier, on a aussi l'habitude de voir. Et donc, celui de gauche, en fait, il n'est pas seulement l'auteur de ce bouquin, il a aussi des cimetières en forêt. Donc, à l'époque de cet article, il mentionnait qu'il avait déjà mis pas mal d'urnes forestières en forêt à 3 000 euros pièce pour financer des réserves intégrales qu'il fait visiter à des gens de la ville. Ils consomment par ailleurs 10 fois plus que la moyenne nationale en bois pour se chauffer. Et en face, on a l'autre forestier qui dit, mais tout ça, c'est des foutaises. Si on plante des arbres, c'est pour les couper. Au plus l'urbanisation s'accélère, au plus la nature est sacralisée. J'ai trouvé vraiment cet article que vous pouvez sans doute retrouver était vraiment très, 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 très intéressant parce qu'il mettait vraiment bien les choses en perspective. Alors, ma collègue Julie Matagne, dans le cadre de sa thèse de doctorat, elle a interrogé des étudiants de niveau master à Louvain. Il y en a qui étaient forestiers, il y en a qui n'étaient pas forestiers. Et donc, vous voyez les réponses à, en fait, deux visions des choses. En bleu, les forestiers, en orange, les non-forestiers. Est-ce que la forêt est gérée durablement? Est-ce qu'il y a une vision un petit peu intermédiaire ou est-ce que la forêt détruit l'humanité? Et là, vous verrez que, clairement, pour les non-forestiers, c'est une vision qui prédomine. Alors, pourtant, on l'a mentionné juste avant, les gens, en général, ils aiment le bois. C'est une étude un peu ancienne, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Mais en fait, y a, le bois est considéré comme un matériel chaleureux, naturel, convivial, mais il n'y a plus vraiment de lien avec la gestion forestière dans l'esprit de beaucoup de gens. Un peu comme disait le collègue Botson, c'est comme un bon steak. Le bois, matériaux, le steak sont venus des choses en soi qui sont déconnectées, en fait, mises à distance, voire coupées de leur origine par le façonnage qu'ils ont subi. Donc ça, c'est le premier élément du pourtant. Pourtant, on aime le bois. Et pourtant aussi, le bois fait partie des solutions du futur. Donc c'est pour ça que cette question est intéressante aussi. J'ai juste mis un graphe pour illustrer l'importance potentielle du matériau bois dans la bioéconomie, qui est une politique qui est largement poussée au niveau de l'Union européenne. Alors, je voulais mettre quelques éléments de discussion sur le tapis. Alors, la forêt, on observe vraiment ici la photo avec une rose. C'est donc qu'il y a des cendres autour. Lorsque j'ai fait cet exposé dans le nord de la France, il y a un forestier qui m'a dit, mais qu'est-ce que je fais quand on a martelé un arbre comme ça? Est-ce que je le coupe ou pas? On observe vraiment une montée en force de la valeur symbolique de la forêt, un peu comme si c'était un miroir inverse de la société qui va à toute vitesse, alors que la forêt, c'est des arbres qui sont au même endroit pendant 150, 250, 250 ans, peut-être le miroir inverse de notre société un peu frénétique. Et on observe vraiment cette question émotionnelle entre l'homme et la forêt qui est de plus en plus prégnante. Et je pense que vous connaissez peut-être ce bouquin d'Harrison de 92, 92 chez vous, qui avait analysé à l'époque la valeur symbolique de la forêt en Occident. Et c'était vraiment intéressant parce que pour lui, c'est quelque chose qui remonte vraiment très loin, qui remonte jusqu'à l'origine de l'humanité en disant qu'en fait, une ville, c'est une clairière dans la forêt, puisque l'humanité, elle vient de la forêt et puis elle est sortie de la forêt. Et ce qu'il dit, c'est que à l'époque, mais je pense que ça reste vrai, bien qu'il y ait d'autres couches qui viennent s'additionner, on le verra juste après. Pour lui, la perte, quand les gens réagissent à la déforestation ou à la perte de la biodiversité, c'est en fait par le biais d'une espèce de peur archaïque de perdre un accès à la mémoire collective de l'humanité. En fait, il prend l'exemple de si votre mère faisait du pain quand vous étiez enfant, quand vous ressentez du pain, l'odeur du pain quand vous êtes adulte, ça vous replonge en fait dans votre enfance et c'est en fait ce lien-là qu'il veut faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond, de très archaïque. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en considération dans la relation qu'on peut avoir avec le grand public, de vraiment comprendre que ce sont des choses profondes qui dépassent peut-être parfois la rationalité et on a parfois des discours sans doute trop binaires. Et donc, nous, c'est vraiment ces questions-là qui nous intéressent. Donc, alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte sociétal particulier, une société en transition. Pour beaucoup, il y a des risques d'effondrement d'une certaine forme de civilisation. Il y a un éveil de la conscience citoyenne collective avec un sentiment d'urgence, un réveil d'une forme d'instinct de survie. Et là, au milieu, la forêt, en fait, je vais remonter parce que je voulais terminer cette idée-là, la forêt, symboliquement, elle représente de plus en plus. J'avais mis, je pense, mais je suis passée un peu vite, les photos des feux en Amazonie et en Australie. Les réactions qu'on a pu entendre autour de ces événements, ne sont pas celles qu'on aurait pu entendre par le passé sur les mêmes événements. Et les médias, on en parlera juste après. contribue à en fait emballer aussi un peu ces visions-là. Et aujourd'hui, clairement, les questions forestières, elles ont monté au top de l'agenda politique, mais souvent avec cette vision qui est derrière de leur importance dans le futur en disant, mais on ne va pas nous enlever en plus la forêt, c'est la forêt qui va nous sauver des désastres à venir. Alors, dans la discussion, ce que je voudrais aussi amener, on n'aura pas le temps d'aller plus loin en décortiquant ce schéma, mais juste pour dire que d'un point de vue éthique, il y a plusieurs modèles qui cohabitent. Il y a plusieurs visions, en fait, de ce qui est bon ou pas bon pour les individus. Pour certains, ce qui va être le plus important, c'est l'homme. Pour d'autres, ce qui va être important, c'est tout type de vie. Pour d'autres, enfin, ce qui va être le plus important, c'est le fonctionnement de l'écosystème. Et donc, en fait, ces visions, elles ne sont pas souvent mises sur la table. Mais en fait, c'est souvent ça qui va motiver, in fine, les décisions. Et c'est très important aussi d'être conscient de ça et de se dire que dans des pays comme les nôtres, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a une vision éthique qui prédomine par rapport aux autres. C'est la liberté de chacun. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver une façon de les faire cohabiter. Alors, on se trouve aussi dans un contexte, j'adore cette photo d'une plantation qui a été faite via un crowdfunding par des jeunes près de chez nous dans un zoning industriel qui ont récolté de l'argent pour planter des arbres et ils l'ont fait avec tout leur cœur. Et puis, ils disent, oui, mais c'est dingue. Quelques mois après, il n'y a plus rien parce qu'en fait, les chevreuils ont tout mangé. Et ils disent, mais on nous avait parlé des lapins, mais pas des chevreuils. Et donc, cette question aussi montre qu'on se trouve aussi dans un manque de cadre cognitif pour vraiment, pour que ici les enfants, mais d'autres couches de la population puissent vraiment comprendre les dimensions de la réalité complexe des problématiques environnementales et en particulier des problématiques forestières. C'est pas simple. Et on a les gens, du coup, puisque les composantes émotionnelles sont importantes et qu'ils n'ont pas le cadre cognitif suffisant, mais c'est compliqué de le résoudre dans un contexte comme celui-là. On est aussi dans un bain médiatique. Les représentations sociales, elles sont véhiculées par les médias. Et Dieu sait si le bain médiatique est prégnant aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre. Les connaissances forestières du grand public, elles se forment via les médias. Les médias de masse, ils vont s'appuyer sur et ils vont renforcer les représentations dominantes. Et très souvent, bien qu'il y ait beaucoup d'exemples qui essaient d'aller contre cette tendance, la tendance quand même prédominante, c'est d'aller vers le sensationnel, de mettre en évidence les contradictions. Et en fait, c'est pas des biais par lesquels les gens, en général, mais même parfois nous, parce qu'on est parfois perdus tous ces messages qui nous bombardent, on n'arrive plus à en fait aborder les questions complexes dans ce type de modèle médiatique qui domine aujourd'hui. Regardez cet exemple ici, magnifique aussi, c'était dans The Guardian. Regardez les photos qu'ils ont utilisées pour illustrer un projet de loi en Pologne qui n'a absolument rien à voir avec les photos qu'on illustre. Et on voit des femmes qui allaitent leur bébé assise dans une coupe à blanc. Donc, ça veut dire que The Guardian choisit expressément ce genre d'image pour illustrer ce qui est en fait un changement de loi par rapport à l'autorisation ou pas d'un propriétaire privé de demander une autorisation avant de couper un arbre. Donc, au niveau des conclusions, on pourra en discuter longuement, mais je voulais juste mettre quelques éléments sur le tapis. D'abord, moi, je parle ici en tant que forestière. Ce qui est vraiment, je pense, essentiel, c'est qu'on aille beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qui se passe. On a d'ailleurs un projet en cours qui essaie de comprendre d'un point de vue psychosocial ce qui se passe quand quelqu'un dit, mais moi, ça me fait mal au ventre quand on coupe un arbre. Et puis, il faut aussi qu'en tant que corps professionnel, on prenne acte de l'existence et de la force de conviction des différentes représentations sociales qui sont autour de nous, qu'on a parfois, parce qu'elles sont peut-être pas suffisamment rationnelles, on a parfois un peu tendance à peut-être rapidement les balayer. Il faut d'abord prendre acte aussi de la légitimité de tous ces différents points de vue. Alors, il y a un axe au niveau des conclusions sur la communication. Ma collègue Julie Matagne travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'est l'idée d'un peu inverser les priorités plutôt que de focaliser sur un message qu'on va bombarder. C'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure la personne qui va le réceptionner ou les groupes de personnes qui vont les réceptionner sont en mesure vraiment de les comprendre. Donc ça, c'est une composante aussi sur la communication. Au niveau des politiques forestières, en fait, ça devient de plus en plus complexe. On a des bouts de problématiques forestières qui sont dans toute une série de politiques, et il faut qu'on arrive à aborder stratégiquement les choses pour qu'on puisse aussi avoir une vision d'ensemble et avoir des choses plus cohérentes. Enfin, sur le positionnement et la posture du forestier, j'ai mis à droite là un t-shirt que j'ai reçu cette image qui dit restez serein et laissez le forestier faire. En gros, nous, avec le concept de gestion durable des forêts, on sait comment on doit faire. J'ai trouvé ça une réaction en fait qui illustrait très bien d'abord cette idée que le forestier est encore le propriétaire symbolique de la forêt, mais que très souvent il agit encore sur un mode qui est par trop de défensif. L'idée, c'est qu'aussi le forestier devienne, oui, qu'il touche évidemment les compétences forestières, mais qu'il soit en mesure aussi d'interagir dans les relations entre la société et la forêt, et qu'il réfléchisse peut-être aussi pendant cette période à qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce métier. Alors, au niveau de la prise de décision, ce qui me semble vraiment important aussi, même si c'est peut-être pas si évident, c'est souvent, la prise de décision, elle est prise sur base de critères économiques et scientifiques qui sont évidemment fondamentaux. Mais il faudrait aussi qu'on puisse, d'une façon peut-être ou d'une autre, aborder les questions qui sont éthiques et qui sont symboliques et qui sont trop souvent tacites, cryptées et pas suffisamment mises sur la table, alors qu'en fait, c'est certainement celles qui sont les moteurs les plus importants dans la prise de décision en général. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'avais encore un petit slide que j'aime bien montrer aussi, qui est le type aussi de choses qu'on est capable de faire. Ce sont des mégaphones géants pour écouter la forêt qui ont été installés sur base d'une initiative d'étudiants en Estonie, des étudiants en design. Voilà, je vous remercie.